Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob.
Le blob,
blob, blob,
blob,
un blob sauvage.
Le blob.
Oui, oui, j'aime tout ça.
Et quoi, c'est réellement un organisme.
Le blob. Extension du domaine des luttes
et des imaginaires.
Une émission de la Maison du Livre
en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique.
Émission numéro 2.
Le blob a vu le jour dans un film d'horreur des années 50. C'était une créature visqueuse venue de l'espace pour envahir la Terre. Comme son compère de fiction, le blob de la vraie vie est prédateur, expansionniste. Le blob est viral, il est quasi indestructible. Face à la menace, il se replie en cellule dormante pour mieux ressurgir quand on ne l'attend pas, sans rien laisser paraître de ses intentions. En a-t-il seulement ? Au fait, pourquoi ferait-il peur ? Peut-être veut-il simplement vivre ? Et s'il représentait une forme de revanche symbolique des êtres jugés rudimentaires, la force des simples, l'évidence de ce qui existe et proteste pour exister. Le Blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Au cours de ce deuxième épisode, nous observerons les croisements entre l'esprit des luttes et les récits, entre les œuvres littéraires ou théâtrales et l'action directe, comment l'une inspire l'autre, comment elles se nourrissent et parfois fusionnent. Est-ce qu'on met en scène l'action militante comme un spectacle ? Est-ce qu'on fomente une dramaturgie comme on prépare un mauvais coup ? Pour en parler, nous interrogerons à distance dans le temps et dans l'espace une belle panoplie d'artistes. Et avec nous, pour suivre le fil, Amaury Geselings. Bonjour Amaury.
Bonjour.
Tu es politologue, chargé de recherche et de plaidoyer pour le CNCD 11-11-11. Auparavant, tu as été responsable des actions pour Greenpeace. Et à côté de ça, tu es multirécidiviste au service, entre autres, des indignés, TTIP Game Over, Camp Climat jusqu'en 2009. Tu es membre de l'Ensemble zoologique de libération de la nature, EZLN. Tu as également été fondateur du collectif Artiviste, qui n'existe plus, mais est-ce qu'on peut dire que le mot valise artiviste peut résumer ton parcours ?
Oui, parce que même si j'ai milité souvent de manière orthodoxe, l'artivisme, c'est la forme de lutte qui m'épanouit le plus.
Très bien, nous allons développer tout ça dans un instant. Mais j'aimerais commencer par une devinette pour nos auditrices et auditeurs. Est-ce que vous reconnaissez ceci ?
Amour sacré de la patrie, prenons l'audace et la fierté. À mon pays, je donne la vie, il me devra sa liberté.
Alors Amaury a tout de suite reconnu, c'était...
La mouette de Portici.
Le spectacle qui a causé la révolution belge. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. C'est arrivé une fois, est-ce que ça pourrait se reproduire ?
En tout cas, moi je crois beaucoup au pouvoir de l'art et de l'artivisme, en tout cas dans les révolutions. Maintenant, de dire que c'est la mouette de Portici qui a engendré la révolution belge, je pense que si on recadre et c'est en tout cas le déclencheur, on peut dire que c'est un petit peu, c'est une étincelle, et c'est de ce dont on a besoin dans les révolutions, ce genre d'étincelle. Et ce que j'aime bien dans l'histoire de cette révolte ici en Belgique, c'est que c'est une œuvre artistique qui va créer la révolte, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est triste à dire, mais ce qui crée les révolutions, c'est quelque chose d'assez dramatique. Quand on regarde le printemps arabe, par exemple, il a fallu une immolation pour créer cette révolution-là. Et donc, même si je minimise la meute de Portici dans son impact sur la Révolution, en fait, évidemment, il y a plein d'autres raisons. Ce qui est beau à retenir, c'est que c'est une œuvre d'art, donc quelque chose de plutôt positif, de poétique, qui a servi d'étincelle et pas un acte de violence tourné vers soi-même, quoi.
Tout à fait. Est-ce que tu peux citer quelques actions choc du collectif Artiviste qui...
Alors, action choc, je ne sais pas si elles étaient choc.
Ou marquantes.
Oui. La spécificité du collectif Artiviste, comme son nom l'indique, c'était d'essayer de s'inspirer de différents courants artistiques pour mener nos actions. Donc, on a fait beaucoup de théâtre. On a régulièrement été bloqué et perturbé des conférences au sein des institutions européennes en faisant de la musique, en faisant des petites pièces de théâtre. On a fait des pièces de théâtre sur la question de la dette qu'on a jouées dans l'espace public. Donc, une pièce en trois actes qui s'appelait La patate chaude. Et puis après, on a fait des interventions qui sont plus de l'ordre de l'happening. Donc, la première action, c'était au Salon de l'Auto, où on a fait notre stand à nous pour valoriser et mettre en avant la marche à pied comme moyen durable de se déplacer plutôt que ces voitures soi-disant vertes. Donc, on a fait pas mal d'actions. Et dans ce collectif Artiviste, on avait aussi développé une brigade de clowns. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, ça existait déjà dans d'autres pays. Ça a commencé en Angleterre. On a développé une brigade de clowns et une samba. Donc voilà, l'idée de mettre de la poésie... de la gaieté à des formes différentes d'expression orale, enfin, ou d'expression en général dans nos actions, c'était vraiment au centre du projet.
Alors, à la Maison du Livre, on cherche l'inspiration dans les livres. Et donc, voici une première bouffée. Christian va nous lire un extrait des Sorcières de la République de Chloé Delhomme, où l'autrice imagine le procès d'un groupe féministe qui aurait pris le pouvoir en flinguant au passage le patriarcat.
Allô ? Oui ? Quoi ? C'est l'heure de la bibliothèque ?
Début 2014, j'ai déposé les statuts du Parti du Cercle à la préfecture en tant qu'association culturelle loi 1901. Objectif : promouvoir, soutenir et transmettre des pratiques et savoirs féministes ancestraux, tout en contribuant à leur modernisation effective et à la défense de leur patrimoine. Le siège social de l'association était un espace ouvert au public, un bar, galerie, librairie, scène ouverte, le fameux club Lilith. Oui, monsieur le président. L'idée, c'était d'infiltrer le terrain en créant notre propre centre d'activité et de formation, mais sans alerter les services du ministère de l'Intérieur. Il fallait que de l'extérieur, ça ressemble à des réunions tricot, Tupperware, sex toys. Surtout pas à une épicerie tapie dans l'ombre, et encore moins à un coven. Investir et ouvrir un lieu intégrant des rituels, un club où circule la parole, où se raconte et s'écrit l'histoire des puissances primitives, la spoliation de nos organes et la colonisation de nos crânes. Un club aux soirées culturelles terriblement couru, radicalement non mixte, tout du moins au début. Renforcer le premier cercle à chaque nuit de pleine lune, changer le club culturel féministe engagé en parti politique fabuleusement organisé. Le parti du cercle au pouvoir, une sororité politique, la sorcellerie démocratiquement considérée comme source d'intérêt public et non comme un des beaux-arts. Parmi les documents saisis dans ma valise en crocodile, il y a des articles de presse. Pour vous faire une idée, celui de Libération, c'est le mieux. Dites, monsieur le président, je peux vous le lire moi-même pendant qu'il se télécharge. Les Sorcières de la République, Chloé Delhomme.
Alors, Amaury, tu es aussi connu en tant que sous-commandant chat de le ZLN. Acronyme que vous partagez avec le mouvement zapatiste, c'est probablement pas hasard.
Non, c'est pas hasard. Avec le temps, j'ai parfois plus d'embarras à défendre ce choix-là, mais bon, j'ai assez de contact avec les zapatistes et eux-mêmes nous ont renvoyé, en tout cas, la joie qu'ils avaient de voir et de découvrir nos actions, etc. Donc, parce que ça a été une vraie question, hein, cette question de... On n'a pas eu l'autorisation quand on s'est lancé.
Vous avez échangé avec le Chiapas pour...
Pardon ?
Vous avez eu échangé avec le...
Ça fait longtemps que j'ai des liens avec le Chiapas, donc j'ai été plusieurs fois dans les communautés zapatistes. Et puis après, il y a tout un réseau de solidarité avec le mouvement zapatiste qui existe ici en Europe, qui s'organise particulièrement en ce moment parce qu'il est question d'une visite des zapatistes ici en Europe prochainement. Puis je suis en contact régulièrement avec Jérôme Bachet, qui est à la fois un professeur ici à l'université à Paris, mais qui donne aussi cours dans l'université zapatiste. Donc voilà, j'ai quelques liens avec le mouvement là-bas. Ouais, c'était pas la question, mais c'est parce que c'était une vraie question. Du coup, je m'enfonce là-dedans de la réappropriation culturelle ou non d'un collectif belge qui utilise l'acronyme. Mais voilà, je pense qu'on a fait ça suffisamment intelligent. Justement, l'idée, c'était d'arriver à resituer une action locale, les actions locales que nous on menait dans un mouvement beaucoup plus global. Et c'est ça l'appel des zapatistes. Hein. Ils parlent de la Sexta. Ils ont lancé la 4e guerre mondiale. Et c'est ça un peu notre défi, parce que là, aujourd'hui, on parle d'action, d'activisme, ça a l'air bien gentil, mais c'est toujours de rappeler que toutes ces actions, bah oui, c'est des petites gouttes d'eau, mais qui font partie d'un mouvement social qui nous dépasse. Et donc, c'est un peu notre responsabilité de montrer qu'on est unis, même avec des femmes indigènes dans le sud-est du Mexique. Et voilà, donc on a lancé le ZLN en s'inspirant quand même pas mal de l'idéologie et de la pensée zapatiste.
Et vous proposez des actions choc, hyper scénarisées.
Hyper scénarisé, oui. Donc, le lien, il y a un lien avec le collectif artiviste, hein, mais la différence avec le ZLN, c'est que c'est toujours le même concept. Donc, on se déguise en animaux. L'idée, c'est de représenter la nature qui va se défendre et qui va aller foutre une grosse claque aux multinationales. Et donc, on rentre en fait dans les multinationales et on fout le bordel en balançant des feuilles, du terreau et en dansant sur de la musique classique ou autre. En faisant des tags aussi, donc il y a un peu de sabotage quand même sur le parcours. Et puis évidemment, tout ça est filmé et la question de la vidéo, donc la question de la production d'une vidéo et de la musique, etc., est au cœur des actions zapatistes parce qu'il y a cette envie aussi de communiquer cette joie de la révolte à un grand public qui peut nous regarder. Il y avait aussi cette volonté d'embarquer un maximum de monde et donc on peut toujours faire les plus et les moins de toutes les expériences activistes qu'on a dans cette expérience de l'EZLN. Ça, c'est un fort, c'est que cette forme-là a attiré énormément de monde. Il y a énormément de gens qui nous ont contactés, qui ont fait un petit peu, beaucoup de gens qui ont fait leur première action de désobéissance civile avec le ZLN. Donc, c'est un peu, nous, on l'a un peu vu comme une école, une porte d'entrée pour aller après faire des actions qui sont plus subversives que celles de le ZLN.
Et donc, c'est vous qui filmez, c'est vous qui maîtrisez le récit. Donc, c'est aussi important d'être celui qui raconte. Il y a quand même tout un storytelling avec une dramaturgie. On soigne son entrée, on soigne sa sortie, on soigne les plans. Il y a vraiment, c'est du théâtre.
Ben oui, et donc de nouveau le lien avec les zapatistes. On m'avait une fois demandé. Enfin, il y a toujours la question du fait qu'on était masqués, donc on est tous masqués. Et donc on joue de tous ces codes-là, dont le fait d'être masqué, de faire tout ça, parce que ça va attirer l'attention, ça va attirer le regard. Et moi, souvent, je le dis, c'est un hameçon en fait. C'est enfin, il y a plein de choses. Comme je le disais, la première des choses, moi, c'est que c'est juste que je me sens jamais autant heureux et épanoui quand je fais ce genre d'action-là. Vraiment, je me sens vivre, je me sens être. C'est les moments. Voilà, c'est juste ce qu'on fait, quoi. Aller s'attaquer à une multinationale et dénoncer ce qu'ils font et faire ce genre de choses-là, ça épanouit énormément. Donc, j'aime bien ce côté festif qu'il y a dedans pour moi. Mais il y a aussi ce côté, il faut l'avouer, hameçon. Hameçon, parce que ça va attirer le regard de personnes qui peuvent avoir des a priori, ne sont pas attirés par l'activisme en général, ne sont même pas politisés, et aussi celui des médias. Donc il y a un peu ce côté, on sait que les médias, ça va les intéresser, ça va les intriguer. Donc je disais de même que les zapatistes, ils ont dû se masquer pour qu'on les voit. Nous, parfois, on doit faire les clowns pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est ce qu'on fait un peu avec le ZLN.
Et de l'autre versant de ce qui nous occupe, je ne sais pas si tu connais le collectif liégeois mensuel, le collectif mensuel.
Oui, j'ai déjà vu certaines de leurs œuvres. Ouais.
Tout à fait, donc qui ont des actions aussi très 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 joviales, mais assez subversives, assez chocs. Ils travaillent généralement avec un auteur qui s'appelle Nicolas Ancion, qui au départ a écrit un roman qui s'appelait L'homme qui valait 35 milliards, qui raconte l'enlèvement fantasmé de la chimie Mittal. Ensuite, ils ont continué avec Blockbuster, qui a énormément tourné, et plus récemment, Sabordage sur le changement climatique. Et on a demandé à Nicolas Ancion comment lui, ça lui était arrivé, ce qui n'est pas spécialement un auteur militant, en tout cas estampillé comme tel à la base, et qui, comment c'est passé, comment lui est venue l'inspiration de L'homme qui valait 35 milliards, et ensuite ce travail avec le collectif mensuel. On va l'écouter.
Je m'appelle Richard Mours, Je suis un type comme tous les autres, ni plus malin, ni plus ambitieux, ni plus riche, ni plus con. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé, avec mon ami Marion et avec mon ami Patrick, de rencontrer Lakshmi Mittal, le mania de l'acier, notamment pour lui poser quelques questions sur la fermeture des hauts fourneaux, ici, dans la vallée.
Au départ de l'homme qui va être en pâtinière, c'est clairement la situation à Liège, où on savait que la fermeture était inéluctable et personne ne réagissait. Et quand je dis personne, ça veut dire le monde politique, mais aussi le monde militant. Dans le monde réel, j'avais pas de solution. Dans le monde de la fiction, je n'ai pu en imaginer une. C'est une manière de trouver une solution imaginaire à un problème bien réel. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'évidemment, quand j'écris un roman, c'est dans ma tête et tout seul. Mais ce qui m'a étonné, c'est que des gens qui étaient quand même malmené dans le roman comme un syndicat, par exemple, ont acheté le livre pour le donner à des délégués dans la métallurgie. Je me suis rendu compte qu'en fait, un roman devenait vite un objet commun, collectif, et puis tout a changé à partir du moment où c'était adapté à la scène. Parce que à partir du moment où un roman devient une pièce de théâtre, ce n'est plus du tout la même chose. C'est pas un lecteur seul face à une histoire, c'est 200 personnes dans une salle qui assistent en même temps à la même chose. Et là, il y a une autre énergie d'avoir symboliquement affronté quelqu'un qu'on n'affronte pas dans le monde réel, et là, là, ça fait un bien collectif.
Et spontanément va se créer une révolte populaire qui sera réglée, hélas, par la violence.
C'est prendre de face des problèmes qui sont abordés d'habitude par le militantisme, mais on n'y apporte pas des réponses militantes, c'est-à-dire que les spectacles ne sont pas des réponses, c'est plutôt des questionnements. Quand le spectateur vient voir Blockbuster, qui est un spectacle qui est fabriqué à partir de plans qui ont été volés dans des films existants, des films hollywoodiens. Tout le processus est visible. Ça, je pense que c'est aussi, ça fait partie à la fois du plaisir pour l'équipe et en même temps de ne pas créer une illusion. Et ça, moi, je pense que ça va vraiment d'une une esthétique qui dit que, bon, voilà, il faut, à un moment donné, on peut prendre son marteau et remodeler le monde comme on a envie de le remodeler, et si nous on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place.
Il était une fois une merveilleuse petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique.
Faut pas avoir peur de quoi que ce soit, et les sujets les plus terribles, parce que cet abordage, ça parle quand même du réchauffement climatique et de la catastrophe qui s'annonce, et là, ça a été un sujet extrêmement dur à traiter, parce que comment peut-on traiter un sujet comme celui-là sans raconter une fable horriblement pessimiste? Comment est-ce qu'on peut quand même donner de l'espoir ou en tout cas créer un plaisir pour le spectateur avec un sujet pareil? Ça a été compliqué. Je pense qu'on y est arrivé, mais j'en suis jamais sûr.
Vous écoutez Le Blob et nous parlons des scènes de lutte en compagnie d'Amaury Geiselings. Parmi tes nombreuses activités, tu es l'auteur avec ton compère Sébastien Kenes d'une conférence gesticulée intitulée « Radical ».
Ça fait 6 ans que je travaille dans une fabrique d'altermondialistes. Donc je dis fabrique d'altermondialistes parce que ONG d'éducation et développement, généralement les gens ne comprennent pas. Ouais, éducation et développement, mais en même temps on est contre le concept de développement, tu comprends, et en même temps on n'a pas vraiment envie d'éduquer des gens, mais plutôt les actes. Je fabrique des altermondialistes.
Donc le sujet de la conférence, comment fabrique-t-on des altermondialistes?
C'est plus large que ça, c'est ça l'avantage d'une conférence gesticulée, c'est qu'en fait on n'a pas un sujet, on en a plein. On fait plutôt des Scooby-Doo avec plein de sujets. Il y en a un de ceux-là, c'est effectivement la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut accompagner davantage de monde à essayer d'être acteur de changement social. Donc il y a un lien fort entre en tout cas l'objet de la conférence gesticulée, qui est un objet particulier, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est la conférence gesticulée, mais ça se veut être quand même quelque chose d'unique, mais ça emprunte au code du théâtre, ça emprunte au code de la conférence classique, mais c'est ni du théâtre, ni une conférence classique, c'est une conférence gesticulée. Mais l'objet, elle-même, que ce que Nicolas Ancion et le collectif mensuel font là, c'est d'arriver à utiliser des artifices qui vont attirer un public plus large que si on fait une conférence militante. Donc c'est quand même, il y a une volonté d'élargir un petit peu le public.
C'est un instrument de recrutement pour nous, pour militants, ou ça s'adresse quand même en particulier à des militants? On sent quand même une certaine connivence avec la salle. C'était la première que j'ai entendue, peut-être qu'il y en a eu d'autres.
Ouais. Ben, On a eu de tout dans les publics, donc on a joué 120 fois, donc on a eu des fois, c'était un public entièrement acquis, des fois pas. Et en fait, ça aura toujours le même effet, c'est-à-dire que je crois que ça fait réfléchir les militants, même les plus expérimentés que nous, et puis même les novices. Il y a des gens qui vont débarquer et qui vont quand même venir suivre notre conférence radicale. Ils ne seraient pas venus à une conférence classique sur l'anticapitalisme, mais parce que la forme est un peu différente, ils viennent. Même chose, je pense qu'il y a plein de choses, plein de gens qui ont été voir les spectacles comme Blockbuster, que moi j'ai été voir. Sans savoir en fait ce qu'ils allaient vraiment voir, et finalement ça a un impact sur eux. Mais ce que j'ai envie de dire, si les gens du collectif nous écoutent, c'est que ce genre de spectacle, il a un impact même sur des gens comme moi qui militent depuis des années. Je me souviens très bien quand je regardais ce spectacle Blockbuster, ben je bouillonnais, je me disais, enfin ouais, ça renforce encore mon envie d'en faire plus.
Il y a une joie contagieuse certainement.
Il y a une joie contagieuse et ça fait bouillonner. Donc je crois énormément à ce médium-là. Je sais pas l'expliquer. Mais parce que ça va appeler à l'émotion, quoi. Mais contrairement à ces livres politiques, contrairement à ces conférences académiques, etc., le fait d'utiliser tous ces artifices qui vont aller titiller d'autres choses en nous, dans nos tripes, dans notre cerveau, etc., ça crée d'autres choses. Je ne sais pas si des gens ont déjà étudié ça scientifiquement, mais en tout cas, je crois que c'est utile pour embrasser un public plus large que les convaincus, quoi.
On parle de joie, mais ce qui m'a frappé aussi dans ta conférence gesticulée, c'est que malgré tout, au-delà de l'humour, il y a quand même une certaine colère qui rejaillit, qu'on sent, qui bouge, qui est également mobilisatrice. Est-ce que c'est aussi, que ce qu'on soit artiste ou qu'on soit activiste, est-ce que cette colère n'est pas aussi la garantie qu'on fait un peu plus que être professionnel de sa profession? Un artiste professionnel ou un activiste professionnel ne doit jamais se couper de cette colère, et c'est quand même la base aussi. Il y a la joie, il y a la mobilisation, mais il y a aussi ce qui nous fait bouillir de l'intérieur, non?
Bah, c'est primordial, hein. Donc dans la conférence gesticulée, j'en parle, et on parle de l'influence des artistes. Il y a un groupe qui m'a beaucoup influencé, Rage Against the Machine, dont je parle dans la conférence, qui dit dans un de ses textes, ta colère est un don. Et moi, j'y crois plus que jamais, et il faut se le rappeler régulièrement, parce que à notre époque, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou. C'est comme si c'était mal vu, la colère. C'est mal vu, la colère. Le conflit, c'est mal vu. On a besoin de conflits dans la société. On a besoin de pouvoir dire c'est un peu à la mode de dire ce pourquoi on est pour. Les gens préfèrent dire, j'entends souvent ça, j'aime pas dire je suis contre, je préfère dire ce pourquoi je suis pour. Bon, l'un va pas sans l'autre, quoi. Dans L'homme révolté de Camus, à chaque fois qu'un homme dit non, en fait, il dit oui aussi. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est juste négatif. On dit oui à plein de choses à chaque fois qu'on dit non, à chaque fois qu'on conteste, les deux sont liés. Et oui, il faut remettre de la colère. On n'est pas assez en colère. Ils ont fait, j'ai pas vu la pièce sur le climat, mais on est trop gentil sur les enjeux climatiques. Enfin voilà, on est trop gentil dans nos discours. On est trop gentil sur les enjeux climatiques. C'est criminel. Les politiques actuelles, elles sont criminelles. Ce qui est en train d'être fait, c'est criminel, et on est encore trop gentil la manière dont on encourage nos politiciens à faire un peu plus, etc. Il faut être en colère.
Alors, on n'a pas dit jusqu'ici, mais le titre de la conférence, c'est « Radical, point d'interrogation, point d'exclamation ». La colère serait le point d'exclamation. Le point d'interrogation, est-ce que ça pourrait être éventuellement la notion de doute? Est-ce qu'on peut être activiste et douter? Est-ce qu'il y a une place pour ça? Parce que, à l'inverse, ne douter de rien, ce serait quand même assez dangereux.
Ouais. Alors dans le titre, nous, le point d'interrogation non radical, c'est surtout parce qu'on n'a pas envie de nous-mêmes nous attribuer cette étiquette-là. Alors on a souvent cette étiquette-là, on est considéré par des radicaux, mon camarade Seb et moi, par plein de monde, mais on est aussi considéré comme des sosdem, comme on dit, par plein d'autres. Donc il y a toujours plus radical que soi, quoi. Mais le doute, il est hyper présent, en tout cas chez moi, chez Sébastien aussi, et dans la conférence aussi, comme il le disait dans l'extrait. En fait, on soulève plus des questions qu'on donne des réponses, et mais voilà, c'est ça l'objet, et c'est politique de partager nos questions. Dans la conférence gesticulée, c'est ce qu'on fait. En fait, on vient tout nu et on a le courage de juste partager nos doutes, et l'idée, c'est d'en parler après avec le public.
Alors, dans le premier épisode du Blob, nous avions croisé le metteur en scène Laurent Wanson, aux côtés de Roberto D'Orazio et Silvio Marra, au moment de la lutte pour les forges de Clabecq. Et on l'a rencontré à nouveau pour qu'il nous raconte son trajet de 30 ans de théâtre, ou justement, d'un théâtre révolutionnaire assez dur, il s'est ressourcé en laissant percoler cette notion de doute.
Tout mon théâtre a toujours été de dire « Sortez de votre léthargie, prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, et n'ayez pas peur d'être en conflit les uns avec les autres, travaillons ensemble et inventons un truc ensemble. » C'est les expériences qui m'ont mené à faire du théâtre engagé et du théâtre politique Enfin, je dirais, en tout cas, il y a deux phases. Hein. Il y a une phase jusqu'à Sainte-Jeanne où, en effet, je pense qu'avec le théâtre, je peux changer de monde. À la fin de Sainte-Jeanne, il y a un appel à la violence ouvrière, à la violence. Mais c'était en 98. Et en 2000, il y a l'expérience des ambassadeurs de l'ombre qui va remettre en jeu complètement la question idéologique pour moi. L'idéologie, c'est dire aux gens, voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Et c'est une position d'au-dessus qui va essayer de dire à des gens en dessous, qu'on considère en dessous, ce qu'il faudrait faire pour changer les choses. Avec l'expérience des ambassadeurs de l'ombre, avec les familles du Quermonde, je me suis rendu compte que par rapport à la réalité, au réel auquel ils faisaient face, ben, l'idéologie, elle ne représentait rien. C'était les acteurs professionnels ou le théâtre professionnel du Théâtre National qui apprenaient des gens qu'on considère comme rien, comme invisibles. Ils apprenaient d'eux, sans délimiter où est l'intelligence, et en disant que l'intelligence, elle peut se trouver exactement là où on pense qu'elle ne se trouve pas. J'ai développé, avec les familles du Quermonde, et puis après, que ce soit en Serbie, que ce soit au Congo, au Chili après, une forme, sinon d'admiration, mais de sympathie ou de connivence avec la débrouillardise. J'ai plus d'admiration pour la débrouillardise que pour l'idéologie.
Accorde aux riches la richesse, Hosanna, Hosanna. Donne-leur la vertu de surcroît, Hosanna, Hosanna. Donne à ceux qui possèdent déjà, Hosanna, Hosanna. Donne-leur et la ville et l'État, Hosanna, Hosanna.
Le théâtre peut changer la vie profondément de quelques personnes qui eux-mêmes changeront la vie profondément de quelques personnes qui eux-mêmes changeront la vie de quelques personnes. Le théâtre ne fera jamais effet de masse. Il faut que le théâtre soit viral. Le théâtre viral, c'est... On sème un doute ou une question, et puis après, la question et le doute, elle fait son chemin. L'histoire, c'est ce que nous racontons de l'histoire. C'est ce que j'ai appris de toutes mes expériences en immersion, c'est qu'on ne peut jamais raconter l'histoire que de l'endroit où on est. La lutte, puisque la question est celle-là, c'est de jamais arrêter d'être en doute envers soi-même. Il y a une phrase qui dit « Dis-moi la ville dont tu rêves, mais ne la rêve pas comme je voudrais qu'elle soit. » Pour moi, c'est la phrase la plus importante. « Dis-moi la ville dont tu rêves, mais ne la rêve pas comme je voudrais qu'elle soit. »
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Vous l'avez reconnu, c'était Léo Ferré.
Voici maintenant un extrait de notre bibliothèque.
Les vous garantit l'heure exacte au troisième top, exactement 13h.
L'effondrement des tours du World Trade Center est inimaginable, mais cela ne suffit pas à en faire un événement réel. La fascination de l'attentat est d'abord celle de l'image. L'image est là d'abord, et il s'y ajoute le frisson du réel. Quelque chose comme une fiction de plus, une fiction dépassant la fiction. Ballart, après Borges, parlait ainsi de réinventer le réel comme l'ultime et la plus redoutable fiction. Cette violence terroriste n'est donc pas un retour de flamme de la réalité, pas plus que celui de l'histoire. Cette violence terroriste n'est pas réelle, elle est pire dans un sens, elle est symbolique. La violence en soi peut être parfaitement banale et inoffensive. Seule la violence symbolique est génératrice de singularité. On cherche après coup à lui imposer n'importe quel sens, à lui trouver n'importe quelle interprétation, mais il n'y en a pas. Et c'est la radicalité du spectacle, la brutalité du spectacle, qui seule est originale et irréductible. Le spectacle du terrorisme impose le terrorisme du spectacle. Et contre cette fascination immorale, même si elle déclenche une réaction morale universelle, l'ordre politique ne peut rien. C'est notre théâtre de la cruauté à nous, le seul qui nous reste, extraordinaire en ceci, qu'il réunit le plus haut point du spectaculaire et le plus haut point du défi. C'est en même temps le micro-modèle fulgurant d'un noyau de violence réelle avec chambre d'écho maximale, donc la forme la plus pure du spectaculaire, et un modèle sacrificiel qui oppose à l'ordre historique et politique la forme symbolique la plus pure du défi.
Donc ce que nous dit Jean Baudrillard dans l'esprit du terrorisme, c'est que en quelque sorte, l'esthétique de l'attentat est plus importante que l'éthique. Si quiconque est en âge de se souvenir se souvient de ce qu'il faisait au moment du 11 septembre, c'est parce que ça nous a marqué plutôt par l'image, par l'esthétique, et par, il se fait que c'était des faits réels, mais...
Oui, oui, clairement, la question de cette violence symbolique, elle est importante. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quoi, la force de l'image pour faire passer ses idées, pour faire passer ses discours. Moi, ça me questionne parce que de parler du 11 septembre, c'est vrai que c'est dramatique comment ces images-là ont pu marquer le monde et quel impact ça a eu. C'est dramatique de voir en fait que toutes les autres formes de violence causées par l'Occident ailleurs dans le monde, il y a pas ces images-là en fait. Donc c'est vrai que c'est fou de voir aujourd'hui l'indignation qu'il y a par rapport, donc je n'ai pas du tout envie de défendre le 11 septembre, c'est un acte terroriste ignoble, Mais parce qu'il a été filmé, ça a laissé quelque chose dans la tête des gens beaucoup plus prégnant que les crimes de guerre commis par les États-Unis partout dans le monde, parce que pour ça, on n'a pas d'image. Donc ouais, c'est dramatique.
Et toi, tu cherches à frapper les esprits, tu ne cherches pas à frapper les gens. Mais est-ce que la non-violence que tu professes est le contraire de la violence ? Pas forcément.
Oui, bon, alors déjà, le débat violence, non-violence, il faudrait savoir de
qu'est-ce qu'on est. On y reviendra. Hein.
Mais oui, c'est clair qu'on essaie de... Bon, déjà, nous dans nos actions, moi, je n'ai jamais frappé directement les gens. Donc c'est clair que c'est plutôt on joue avec l'image sans faire des actes de terreur contre les gens. Mais voilà, en tout cas, il y a la même logique, on pourrait dire, oui, il y a cette même logique d'essayer de frapper les esprits avec l'image, ça c'est clair. Quoi.
Alors nous sommes en Belgique, on va y revenir, et avec l'évocation de quelques figures tutélaires de la violence symbolique.
Croyez-le ou non, mais dans ce petit café typique de Bruxelles, le Dolemol, se prépare le coup d'état annuel de l'anarchiste Yann Bucquois. De nombreux artistes subversifs sont au rendez-vous.
Je préfère pour ma part, par exemple dans la formule des attentats pâtissiers, on surgit où on ne nous attend pas, et puis hop, on frappe et on disparaît. Tandis qu'ici, on marche frontalement vers l'ennemi, ce qui fait que ça finit mal. Hein ? Je ne trouve pas ça extraordinairement malicieux. Mais, puisque le splendide Yann Bucquois, qui a mis vraiment toute sa vie en aventure corrosive, a décidé de se faire ce drôle de coup d'État, advienne que pourra chaque 21 mai. Je trouve que cette obstination est totalement donquichotesque et pleine de surprises.
Une fois au pouvoir, Yann Bucquois compte bien renverser les normes politiques.
Mais l'idée, c'est bien ça, c'est qu'il y a des élections tout de suite, c'est-à-dire élections via loterie, pour que justement je ne puisse pas devenir un méchant dictateur. Enfin, on aura une espèce de distribution statistique qui représentera tous les Belges. C'est-à-dire que tu auras 2% d'avocats, 2% d'intellectuels, des ouvriers, des caissières du GB, alors que maintenant, c'est une espèce de caste, de père en fils. Et donc, une loterie, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. En fait.
Armés de leurs drapeaux, les joyeux révolutionnaires se dirigent vers le Palais Royal. Mais comme chaque année, les forces de l'ordre sont déjà sur les lieux.
Mais ils sont partout de toute façon, ils vont sans pas con.
Nous venons par solidarité avec cette drôle de facétie non évidente du tout, comme Yann se retrouve matraqué et chez les flics chaque fois.
Comme d'habitude, Yann était splendidement imprévisible, alors que l'opération, cette fois-ci, allait être exceptionnellement bon enfant. Tout d'un coup, une électricité mauvaise a frétillé dans les yeux de Yann et hop, il est parti avec son drapeau.
L'objectif, allait plus ou moins avoué, c'était prendre le palais. Bon, le palais, il n'est pas pris, mais... D'un autre côté, bon, ben, l'action symbolique et l'œuvre d'art dont je parlais tantôt, ben, celle-là, elle est accomplie. Quoi.
Donc on a retrouvé ici non seulement Yann Bucquois et ses tentatives de coup d'État annuel où finalement la violence ne s'exerçait que sur eux-mêmes et sa bande. Ils se jettent, en plus ils donnent rendez-vous aux forces de l'ordre qui les attendent en bordure de la zone neutre. Ils se retrouvent plaqués au sol, ils passent la nuit au poste et c'est fini. Face à lui, on a son compère, mais ils sont pas d'accord tout à fait, Noël Godin et ses célèbres attentats pâtissiers, l'entartage. Qui lui exerce malgré tout une certaine violence, même si c'est une violence symbolique héritée des films burlesques. Il s'attaque malgré tout à des vraies personnes, notamment Bernard-Henri Lévy qui est sa bête noire, mais il en a fait d'autres. Est-ce que tu te sens un peu héritier de ce genre de pratique, et plutôt l'un, plutôt l'autre?
Les deux me parlent et il y a des vrais derrière cet échange, il y a des vrais débats dans nos mouvements aussi sur est-ce qu'il faut faire nos actions publiques, nos actions de désobéissance civile, est-ce qu'on les fait publiques, est-ce qu'on les annonce. Il y a toute voilà, c'est la définition de la désobéissance civile, c'est qu'elle est toujours publique, elle est annoncée, on assume notre responsabilité si on se fait arrêter. Et puis il y a d'autres fois, on fait d'autres tactiques, plutôt du sabotage ou même pas forcément du sabotage, mais des actions où on ne va pas annoncer ce qu'on fait. Donc c'est un vrai débat, en tout cas dans le mouvement activiste, de est-ce qu'on agit à visage découvert ou pas. Je crois que la plupart des gens font toujours les deux. On ne fait jamais qu'un des deux. Et ça dépend des objectifs de chaque cible. J'ai plus parlé avec Noël que Yann Bucquois. Je n'ai jamais parlé avec lui, d'ailleurs. Il nous a accompagnés du temps du collectif Artiviste. On a beaucoup échangé avec lui, donc c'est clairement une inspiration. Et il nous a beaucoup appris dans les échanges qu'on a eus avec lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est de nouveau, c'est hyper intelligent parce que son attentat, c'est pas un attentat à la figure qu'il fait, c'est un attentat à l'image. De nouveau, on revient sur la question de l'image, quoi. Ce qu'il fait, c'est aller écorner une image aujourd'hui. Voilà, c'est l'ère de l'image. C'est les gens qui l'attaquent, c'est des gens qui se vendent comme un produit, en fait. Hein. Ils sont le. Donc c'est magnifique ce qu'il fait, quoi. En quelques secondes, il arrive en fait à déconstruire et à casser, à démolir ce que ces connards essayent de faire pendant des années. Quoi.
C'est plus une claque pour l'amour propre des personnes que pour leur figure, même si c'est aussi un petit peu une claque dans la figure.
Je crois que ces gens, avec tous leurs trucs de marketing, etc., ils arrivent finalement à séduire des gens. Donc, ces mêmes gens qui auront été séduits pendant des années à regarder Bernard-Henri Lévy à la télé avec sa chemise ouverte, parce qu'ils auront vu un attentat de Noël Godin, ils vont le regarder différemment après. Donc moi, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien ça. Et puis de nouveau, on en revient, je crois, comme je disais dans Les Hôtelaines, c'est juste que Noël, il fait un truc que tout le monde a envie de faire, quoi. Il fait un truc que tout le monde a envie de faire. Et on en revient aussi sur quelque chose de plus profond qu'il y a derrière ce que Noël Godin fait, c'est la propagande par les faits. C'est-à-dire, il fait ça, mais en même temps, il le fait. Et je crois que ce qu'il dit, c'est mais tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait faire. C'est pas un acte singulier en soi, c'est aussi un appel à, mais en fait, on devrait tous faire la même chose, là. Tous ces gens qui nous embobinent et qui nous racontent des conneries, on ferait leur foutre des tartes à la crème et les faire taire, quoi. C'est ça qu'il fait.
Oui, c'est un appel à la contagion, parce que on parlait de claque, donc il y a la cible de l'attentat lui-même, de l'attentat ou de l'action, mais le destinataire n'est pas que la personne qui reçoit la claque, c'est aussi ceux à qui ça s'adresse, à qui on transmet ce message. Il est possible de donner des claques aux puissants et de les ridiculiser. Donc il y a une espèce de rapport triangulaire entre la personne qui commet l'attentat, la personne sur qui on commet l'attentat, et puis à qui ça s'adresse.
Ouais. De nouveau, on appelle ça un peu en tout cas nous dans ce qu'on fait, on appelle ça un peu la triangularisation du conflit. À chaque fois qu'on fait une action, c'est ça l'objectif, parce qu'on s'attaque dans la plupart des cas à plus fort que nous. Mais ce qu'on fait, c'est aussi pour ça qu'on le documente, qu'on le filme et qu'on rapporte. En fait, évidemment, qu'il y a une autre cible, quoi. C'est ceux qui nous soutiennent mais qui agissent pas. C'est ceux qui sont pas au courant et qu'on a envie d'informer. Et donc, quand on fait une action, on a envie de faire bouger les choses, quoi. Bouger les choses finalement de ces gens qui nous regardent, quoi. Et c'est pour ça qu'on parle de triangularisation du conflit. C'est en opposition à quelqu'un, une multinationale. On fait une action directe et on a envie de mobiliser la force de l'opinion publique pour qu'ils nous rejoignent sur les enjeux sur lesquels on combat.
On va refaire un petit tour dans la bibliothèque.
C'est l'heure de la bibliothèque.
Bonsoir Eric, à quel type d'attentat venons-nous d'assister ? Bonsoir, c'est un mouvement relativement récent à l'échelle de l'humanité, mais qui ne date pas d'hier pour autant. Il s'agit d'éco-terrorisme. La revendication qui a très vite suivi n'était d'ailleurs pas ambiguë. Mais pourquoi Tenerife et comment les touristes se sont-ils retrouvés couverts de matières fécales ? Le souci de Tenerife est celui de bien d'autres destinations, victimes du paradoxe touristique. Ce secteur, nécessaire à l'économie locale, est arrivé à une forme de saturation, tant au niveau des infrastructures que des ressources disponibles sur l'île. De nombreux habitants tirent depuis longtemps le signal d'alarme auquel les autorités n'ont, selon eux, pas été suffisamment sensibles. Il faut savoir qu'à Tenerife, où l'eau est pourtant une denrée précieuse, la quasi-totalité des eaux usées est rejetée en mer sans la moindre filtration. On y évoque pudiquement la prolifération de micro-algues à la surface des flots, alors qu'il serait plus réaliste de parler de bancs d'excréments qui voguent au gré des courants.
C'est justement dans l'un de ces bancs que le canadair que nous avons vu a rempli ses cuves avant de les déverser sur les vacanciers. La symbolique paraît évidente. On peut dire en effet que ces touristes ont été confrontés à leur propre pollution. Le communiqué disait, je cite, « Vos souillures vous dégoûtent, nous, nous devons vivre dedans. » Sous la ceinture, Philippe Gustin.
Alors Philippe Gustin, c'est son premier roman, il vient de recevoir le prix Fintro du Polar à la Foire du Livre, et il sera présent à la Maison du Livre, si tout va bien, début mai. L'imagination, comme on vient de l'entendre, en matière d'éco-terrorisme, a encore est un gisement fécond, et les pollueurs, les autres climato-sceptiques n'ont qu'à bien se tenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à se faire plaisir dans l'action, dans le côté ludique, et est-ce qu'on n'arrive pas à une certaine limite qui est qu'on se rend puissant, drôle, mais est-ce que ça a une certaine efficacité? Est-ce que l'action ludique reste efficace à terme?
Ouais. Donc là, on en revient au point d'interrogation sur ces questions-là. J'ai réfléchi depuis pas mal de temps et mon opinion, elle évolue. Et ça dépend à qui je parle. En général, il y a des fois des gens qui ne sont pas du tout convaincus par l'activisme ou par l'artivisme. Alors, je vais défendre à fond l'artivisme et les valeurs de l'artivisme et le fait de prendre de la joie dans l'action. Sur cette question-là, moi, je reste persuadé que... je suis contre cette éthique sacrificielle, etc. Et je suis persuadé qu'il y a toujours moyen de trouver... Il y a tellement de choses à faire qu'il y a toujours moyen de trouver des formes d'agir. Il n'y a pas que l'activisme. Hein. Quand on veut essayer de transformer les choses, on peut aussi lancer des circuits courts, des potagers collectifs. Si on a peur de se faire frapper par la police, il ne faut peut-être pas faire de l'activisme, il faut faire d'autres choses. Mais je reste persuadé qu'il y a tout à fait moyen de faire des choses qui sont subversives, tout en trouvant de l'épanouissement et de l'émancipation. C'est qu'on n'a pas assez bien à chercher, en fait. Si on se dit, le seul truc que je peux faire pour faire avancer les choses, en même temps, ça j'aime pas le faire et ça me fait du mal, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, du plaisir, la notion de plaisir, c'est pas ça qui est tabou, mais les dérives qu'il peut y avoir dans l'artivisme, c'est finalement de se féliciter de ce qu'on a fait et de se dire... Le truc classique, c'est on fait une action artiviste avec une pièce de théâtre, et après, quand on débrief, on se dit, mais tout s'est bien passé, tout le monde a bien dit son texte. Non, c'est pas ça. En fait, d'accord, on fait ça, mais ça, c'est le moyen. Mais l'objectif, c'est quand même de changer les choses au niveau politique. Donc, ce qui se perd par moment dans les milieux qui font de l'artivisme, c'est de se féliciter d'une forme qui a été réussie, sans plus poser la question de se rappeler, de revenir sur la colère qu'on a au départ. Alors, on l'a peut-être traité, l'effet catharsis a été là pendant quelques minutes, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment changé les choses par rapport à l'injustice de départ? Donc, ça, c'est une des faiblesses, peut-être, qu'il y a dans le courant artiviste, etc., et qui va avoir comme autre faiblesse, du coup, de passer d'un sujet à l'autre, alors qu'avant, on militait pendant des décennies sur la question sociale, et on n'était peut-être pas très artiviste dans les actions qu'on menait, mais on était sur une question, et on n'abandonnait pas jusqu'à ce qu'on obtienne victoire, quoi. Donc, il y a quand même ces limites-là, aujourd'hui, dans l'artivisme. C'est des fois de perdre de vue qu'il s'agit quand même de changer les choses et de gagner des victoires politiques. Pas juste de s'amuser dans la lutte et pas juste que nos actions se passent bien et été prises à la télévision, applaudies par les copains, mais est-ce qu'on a véritablement changé les choses?
Alors on est à la Maison du Livre, on aime les livres, et tu me parlais quand on a préparé l'émission du livre de Geoffroy de la Gannerie, « Sortir de notre impuissance politique ». Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi ce livre est important et...
En tout cas, pour le moment, on l'a un peu parcouru avec des copains activistes et il revient sur cette notion-là et il pose plein de questions. Et lui, il est très critique par rapport à Happening dans l'activisme de manière générale. Mais il dit aussi qu'on doit réinventer nos manières de lutter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse assez fort parce que concrètement, il dit, moi, je souscris à cette analyse. Bon, ça fait 40 ans qu'on perd, quoi. Ça fait 40 ans qu'on se fait mettre. Et il est vraiment temps de repenser nos modes d'action. Et je pense que l'artivisme et la question d'utiliser d'autres codes, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas tout, quoi. Il va falloir inventer d'autres choses aussi à côté.
Alors, lorsque je t'ai signalé que nous allions terminer le parcours littéraire en évoquant Alain Dambasio, tu m'as dit, quand même, j'ai cru que vous alliez l'oublier. C'est une telle évidence, Alain Dambasio, pour l'instant?
En tout cas, ouais, je parlais pour le milieu activiste, mais il nous inspire énormément. Franchement, et j'aimerais connaître plus sur ce personnage, mais par exemple, la zone du dehors, j'ai créé un autre collectif qui s'appelle La Volte. Ça vient parce que tellement ça nous a inspiré aussi, mais dans la zone du dehors, mais quand on lit ça, En fait, il a en roman, il aborde toutes les questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on va changer le monde? Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur quand on propose au protagoniste une place au ministère de l'Éducation? Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur sur la question de la violence, de la non-violence, de créer des alternatives à côté du système ou est-ce qu'il faut à tout prix l'abattre ce système? Voilà, dans tous ces ouvrages, honnêtement, c'est des questions qui nous traversent, mais il les met dans une forme qui est quand même vachement plus agréable que nos réunions de militants. Donc voilà, ça nous fait avancer.
Donc Alain Damasio est inspirant, mais qu'est-ce qui inspire Alain Damasio? On lui a posé la question.
Mon dernier roman, Les Furtifs, est clairement inspiré de ce que j'ai vu et vécu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont repris, notamment les éléments de corps. Pour moi, c'est là que ça m'inspire le plus, c'est-à-dire que je vois surtout des corps vivants. C'est ça qui m'a marqué à la ZAD. C'est des corps vivants, c'est des corps explosifs, c'est des corps qui sont habités, c'est des corps qui le matin se lèvent à 6 heures pour aller à la poste aider un piquet de grève et qui ensuite débarquent à midi avec une espèce de cantinière pour préparer les repas pour la manif de l'après. C'est très impressionnant, voilà, cette vitalité-là est très impressionnante. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me touche quand j'écris. Je ne suis pas du tout un visuel, donc je décris des personnages par leur mode d'énergie, leur rythmique, la scansion intérieure, le mouvement, l'espèce de flux qui dégage. Et après, bah, réciproquement, moi, je considère toujours l'art comme un transformateur d'énergie et mes romans, politiquement, comme pouvant aider, porter, inspirer, soutenir les luttes et surtout les empuissanter, c'est-à-dire leur donner l'énergie et la puissance de se faire, leur donner envie. Moi, j'aime bien le mot encourager, c'est vraiment donner du courage. Souvent, ce qui est difficile, c'est d'accéder à ce courage, le maintenir, le rendre persistant. Et je trouve que les œuvres ont cette faculté-là parce qu'on peut y revenir. On peut revenir sur un paragraphe, on peut revenir sur un passage, on peut revenir sur la description de, par exemple, dans Les Furtifs, du moment où il crache l'hélicoptère sur un toit, juste avec des cordes et des bras humains. Et ces choses-là, je pense, sont des sources, forment une sorte de mémoire un peu commune, une référence sur laquelle les gens vont s'appuyer, qui est toujours plus belle, évidemment, plus intense que parfois même que ce qu'ils ont pu vivre, parce que la littérature a cette capacité à densifier au maximum l'émotion d'un passage. Donc j'essaye en tout cas de mettre en place ces moments-là dans des livres, des moments épiques, des moments parfois purement lyriques, des moments aussi d'inventivité, d'action. Ce n'est pas uniquement thématique, je pense, les livres qui t'embarquent. Et tu as des livres qui te donnent une niaque énorme alors qu'ils ne sont absolument pas politisés. Tu lis Antonin Artaud, il y a des passages qui sont purement poétiques sur Van Gogh, le suicide de la société, mais qui te donnent une gouache incroyable. Quoi.
Alors Amaury, c'est le printemps. Bientôt, on va déconfiner, on peut l'espérer. Bientôt, on va pouvoir retourner dans la rue. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui est en route? Et comment est-ce qu'on va pouvoir remobiliser, réinventer de nouvelles luttes?
Il se prépare plein de choses, hein. Il y a pas mal de choses qui se préparent à droite à gauche. Et je crois que les rues vont être prises d'assaut une fois qu'on pourra y retourner, vu le ras-le-bol qu'il y a. Et en même temps, il y a une opportunité justement avec ce Covid et tout ce qui a été mis en place. Là, pour le moment, de nouveau, les politiques qui sont en place, c'est pas les bonnes parce que tout ce qui est mis en place, ça va ne faire qu'accentuer les inégalités. Donc plus que jamais, il va falloir se mobiliser. Y a une dynamique qui s'appelle Faire Front là, qui cogite pas mal et qui j'espère va faire émerger pas mal de formes d'agir nouvelles, parce que moi à la limite j'aimerais conclure un petit peu là-dessus. C'est, on a beaucoup parlé de comment est-ce que l'art peut inspirer les révolutions et etc. Et dans Faire Front, il y a cette force là, c'est qu'il y a des personnes du monde culturel qui sont là. Et je pense que c'est pas suffisant, en fait. Là, on entend Damasio qui dit « Ah tiens, j'ai envie d'inspirer ». Mais moi, j'ai envie de dire à Alain Damasio, c'est pas suffisant, le fait qu'il inspire des actifs. En fait, on a besoin des artistes. On a besoin des artistes sur les barricades, on a besoin des artistes dans la rue avec nous, parce que les artistes ont une manière de penser que nous, on n'a pas. Nous, on a fait, justement, si on a eu la chance d'être privilégié comme moi, on a fait Sciences Po, où on a cette colère qui est là, et puis après, on est là. Mais en fait, on a besoin, pour gagner, on doit tout réinventer, quoi. Ils ont le pouvoir en place, ils ont plusieurs coups d'avance sur nous. Hein. Ils sont au courant de techniques subversives que nous, on n'a pas encore fait en Belgique, parce qu'ils savent que ça a été fait dans d'autres pays. Ils ont 4 coups d'avance sur nous. À chaque fois qu'on est capable de gagner dans la lutte, c'est parce qu'on a inventé quelque chose de nouveau. En 99, l'OMC, le blocage de l'OMC, c'est parce qu'il y a eu des techniques d'occupation de la rue et de blocage qui n'avaient jamais été faites avant et que la police n'a pas pu anticiper. On est condamné à créer des nouvelles choses si on veut réussir à gagner des batailles, à être subversif. Et pour le faire, on a besoin de cerveau comme celui d'Alain Damasio. Donc moi, j'aimerais lui dire d'arrêter de faire des livres sur 2048, mais qui nous disent et qui réfléchissent avec nous qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine qui n'a jamais été vu, quoi ? Et au même titre, je pense que nous, les activistes, on a besoin de faire un pas. Autant les artistes doivent devenir un peu plus activistes, autant nous, on doit comprendre qu'on est condamné à prendre cet esprit artistique pour faire la révolution et de ne pas se dire que c'est dans les vieux livres qu'on lit d'il y a un siècle, deux siècles, etc., tel manifeste, qu'on va trouver la recette pour changer les choses aujourd'hui. Nous-mêmes, on ne sait pas. De nouveau, on revient sur ce point d'interrogation. On doit explorer, on doit trouver des nouvelles manières d'agir. Donc on doit sortir de notre carcan militant et oublier les vieilles recettes et essayer d'inventer quelque chose d'autre.
Et c'est par l'imagination, tu penses, un travail d'imagination qu'on va pouvoir passer, réintroduire l'esprit de lutte. Tu penses qu'il y a une réelle convergence entre...
Et on n'en a pas parlé, mais je rajouterais deux choses. C'est par l'imagination qu'on doit repenser nos méthodes. Mais on a aussi besoin de mobiliser l'imaginaire pour donner envie aux gens, en fait, de bouger. Changer le narratif actuel qui nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, changer le narratif qui nous dit que finalement, le système capitaliste, c'est le moins pire des systèmes. Pour le moment, et là, de nouveau, on en revient sur Geoffroy de Lagaznerie, qui le dit bien aussi, c'est pas le seul à le dire. En fait, on est trop à dire contre, on est trop à dire, à réagir, en fait, à l'agenda des réformes néolibérales. Il faudrait qu'on arrive en fait à nous se rassembler pour dire en fait de quoi est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on voit le monde dans lequel on a envie de vivre et arriver à raconter ces histoires, de vers où on va aller. Et de nouveau, c'est des choses encore à inventer. Hein.
Et recommencer à penser qu'il est possible de changer le monde, de ne pas être qu'en réaction à ce qui nous tombe dessus, mais à inverser le...
Oui, voilà, donc on a besoin de récits positifs. Et du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, que le contre va avec le pour. Donc, faut pas avoir peur de parler de notre colère. Faut pas avoir peur de montrer le doigt sur nos ennemis. On a des ennemis, on a des adversaires. Mais il faut aussi savoir dire ce qu'on a envie de voir advenir et raconter des belles histoires qui donnent envie aux gens de nous accompagner dans ces luttes qui visent à transformer le monde dans lequel on est.
Eh bien, on arrive tout doucement au bout déjà. Merci mille fois à toi, Amaury. Merci aussi à Alain Damasio depuis Marseille, Nicolas Ancion à Montpellier, Laurent Manson de Scarbec. Merci à Yann Bucois pour les archives et merci à nos mentors Clémentine, Noé et Thibault, à nos partenaires du Xara SBL et de Radio Panique. Il y avait Christian Oulecture, la maison du livre, c'est aussi Julie, Mélanie, Mathieu et Pierre. Le blob revient dans un mois et la fois prochaine, promis, il y aura plein de voix féminines. Il y sera question de souveraineté alimentaire et d'écoféminisme. On se quitte tout en douceur et en inspiration avec une partenaire de longue date de la Maison du Livre, Maya Chauvier, et son groupe Récital Boxon. La chanson s'appelle Débordement.
Connais-tu cette femme poudrière ? Toujours son souffle fait lien avec les vents. Une chanson fait jouir la terre. Et quand le vent souffle, tout est si vivant. Elle vous surprend. La vie bat son plein. D'un coup, tous vos imaginaires brûlent. Vous n'avez pas de fric, mais ça vous suffit bien. Vous vous buvez, vous vous fuyez, vos lèvres se consument. J'ai entendu son chant. Il défaisait les normes. Il avait ses brisures et ses inventions. Il était habité par mille peuples nomades et mille disparitions. Son chant est un volcan qui se crie et se meurt. Il a ses fougues épileptiques. ses paralysies et ses sursauts, ses graffitis chargés de dons. J'ai entendu ces femmes de la nuit, ces femmes subversives, ces femmes révolutions, ces femmes barbares qui ont tant de noms. Je suis une roulotte du...